Le mot de la semaine, eh ben, c'est dette. On ne parle plus des droits de douane. Alors d'ailleurs, je vais demander aux gens, aux invités, pourquoi on ne parle plus des droits de douane. Ça y est, c'est fini. Alors que bon, il n'y a eu qu'un deal avec la Grande-Bretagne, une annonce d'accord à terme avec la Chine. Bon, on a zappé sur un autre sujet. Alors le sujet du jour, on vous dit, c'est du Zara, la fast fashion, c'est la dette américaine. Alors ça y est, plus tout le monde parle que de ça. Avec le budget Trump qui devrait générer 2700 milliards de déficit supplémentaire sur 10 ans, c'est la panique. Il va y avoir un krach obligataire, les taux d'intérêt à long terme remontent, ça va être la catastrophe pour l'économie américaine et la catastrophe pour le monde entier. Christopher Demick, juste une question déjà de pure curiosité. Pourquoi le sujet des droits de douane a évacué totalement de tous les médias?
Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, ce qui avait été annoncé début avril, le fameux jour de la libération et la réalité, c'est qu'on met de l'eau dans son vin. Là, on voit très nettement que Trump ne veut pas aller en frontal. Il y a quelques accords commerciaux qui sont indéniablement imparfaits, mais qui ont été annoncés. Et aujourd'hui, on est dans une période où il y a beaucoup de discussions budgétaires. Donc aux États-Unis, mais vous avez aussi des tensions au Japon, parce qu'il y a des élections au mois de juillet. Donc il y a un contexte qui est aussi favorable pour s'intéresser à la question de la dette. Alors bien sûr, le vrai point focus est aux États-Unis, les discussions qui ont lieu, qui devraient s'achever.
Qu'est-ce qui se passe juste, parce que tout le monde ne suit pas au jour le jour, nous on en parle tous les jours, mais qu'est-ce qui se passe exactement?
On discute le budget pour 2026, on a un calendrier qui fait qu'on a des discussions qui vont aller au moins jusqu'à tout début juillet, c'est ce qui est prévu. Parmi les discussions...
Il a été adopté quand même ce budget?
Alors pas complètement, vous avez la signature du président début juillet qui doit intervenir, et vous avez encore des éléments de discussion sur certaines baisses de dépenses.
Il doit passer au Sénat, mais il est passé déjà, il a été approuvé à la Chambre des représentants en un temps record.
Et il peut être encore modifié. Le problème, c'est que vous avez deux éléments qui s'ajoutent. Sur les discussions, et c'est des deux côtés, républicains et démocrates, on est dans une course à l'endettement. C'est-à-dire, on va avoir des baisses d'impôts qui sont très importantes. En face, on n'a pas suffisamment de baisses des dépenses. Finalement, ce qui avait été promis par le Doge, notamment, n'a pas été mis en place. Et en parallèle, vous avez depuis 2019, donc avant Covid quand même, des émissions obligataires de la part des Américains qui ont été de fonction...
Émissions obligataires, ça veut dire l'État qui, pour financer son déficit et pour refinancer sa dette, emprunte sur les marchés.
Okay. Avec une spécificité, c'est qu'il a décidé d'emprunter à du court terme. Quand on emprunte sur du court terme, c'est-à-dire que vous allez vous refinancer plus régulièrement. D'accord. Et donc les taux pour vous réemprunter peuvent potentiellement augmenter. Ça crée un peu un électrochoc sur le marché obligataire. On a eu les taux longs, donc 10, 30 ans aux États-Unis, qui ont très fortement augmenté. Sur du 30 ans, on arrivait au niveau de la crise financière de 2007. Et le point qui est systématique, c'est quand c'est un problème sur le marché obligataire américain, ça se répercute ailleurs. On l'a vu au Royaume-Uni. On l'a vu au Japon aussi, où on a une flambée des taux au long. On n'est pas face à un krach obligataire. Il y a un problème de volatilité. On voit que les investisseurs sont très fébriles, mais ils sont fébriles depuis déjà quelques semaines. Mais c'est un point d'attention à observer.
C'est un vrai sujet au point d'en faire une sorte d'hystérie collective. Alors, il y a le Wall Street Journal qui a cité une phrase que j'aime beaucoup. Il a dit les marchés obligataires, c'est comme les toilettes. Tant que ça marche, on s'en occupe pas.
C'est un peu ça. Vous disiez en introduction, finalement, sur les actions, ça se porte assez bien.
Et quand
on regarde, normalement, quand on a un sujet, les taux effectivement se tendent sur les taux longs obligataires, et derrière cela, les actions trébuchent. La réalité, c'est que depuis un mois, on a les taux longs qui augmentent. Les actions, notamment le Nasdaq, qui est a priori assez réceptif à cela, continuent d'augmenter. Donc c'est vrai que c'est un peu un non-sujet.
Il en baisse depuis le début de l'année, quand même.
Ah oui, ça. Oui,
en revanche. Il en baisse depuis le début de l'année.
Après des années d'eau.
Le dollar a baissé de 10% cette année. Et si on regarde, si on fait une analyse un peu différente de tout ça, les républicains sont fondamentalement moins dépensiers que les démocrates. Donc le seul moyen qu'il a de faire passer son paquet fiscal de baisse d'impôts, c'était de faire croire à ses élus qu'il allait faire des économies via le Doge raté, parce qu'il n'en fera pas autant que prévu, et via les tarifs douaniers qu'il a annoncés avant pour ces raisons-là. Sauf que sur les tarifs douaniers, c'est un futur flop, parce qu'il n'aura certainement pas l'argent qu'il estime gagner via l'augmentation des tarifs. Donc la réalité, c'est que les économistes sont en train de dire on nous avait vendu un déficit américain qui allait baisser, il ne va pas baisser, il va augmenter. Et moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que le marché obligataire, c'est le marché le plus liquide du monde. Donc expliquer que ce marché est un marché qu'on peut manipuler via la presse, en fait, c'est pas vrai, c'est juste le marché le plus liquide du monde. Donc quand il vous dit, quand le 10 ans US passe de 3,5 à 5, il se passe quelque chose qui est massif. Quand le dollar baisse...
Il n'est pas passé à 5 quand même, un peu d'exagération.
Il a touché, il est revenu à 4,50, mais il l'a touché. Et quand le dollar perd quasiment 10% sur l'année, ce qui est aussi un marché extraordinairement liquide, il se passe un truc, à mon avis, qui va au-delà de l'anti-Trumpisme.
faut arrêter Emmanuel. De m'inviter avec Sébastien parce que je suis tout le temps d'accord avec lui.
Emmanuel, j'aurais pas dû vous mettre à côté.
Non. Non, non.
Alors, il y a un problème d'abord. Est-ce qu'il y a un vrai problème?
Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis d'accord. En fait, bon, d'abord, le marché de la dette américaine. La dette américaine et les taux associés, c'est quand même le nord magnétique des marchés financiers mondiaux. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'épidermie autour de tout ce qui se passe sur la dette américaine qui est important. Est-ce que vous vous rappelez de ce débat qui était hallucinant à la fin des années 90 quand on avait peur qu'il n'y ait plus d'émissions de dette américaine? Et donc, c'était la panique. On disait, mais si les Américains n'émettent plus de dette, comment vont fonctionner les marchés mondiaux, etc. Là, moi, je crois qu'effectivement, il se passe des choses assez structurelles. D'abord, la dégradation, la perte du triple A par une agence de notation pour un pays comme les États-Unis.
Je rappelle que c'était la dernière agence qui avait encore un triple A, les autres l'avaient déjà dégradé.
Exactement,
depuis 18 mois. Donc c'est pas, je vais dire, c'est un alignement.
Oui, mais pour le coup, c'est
bah, si, encore le rappeler, parce qu'on a l'impression
que le coup de projecteur sur la dette américaine, c'est quand même important. Deux, effectivement, moi je pense que Donald Trump a créé beaucoup de doutes finalement dans l'opinion des investisseurs mondiaux sur qu'est-ce que je veux faire du dollar, sur est-ce que les États-Unis doivent être un pays qui doit retrouver plus d'indépendance financière ou pas, etc. Donc ça, oui, ça crée de l'incertitude. Et puis il y a effectivement cette idée que, contrairement à ce qu'on a connu dans le passé, les déficits budgétaires américains ne reviendront pas aussi facilement, ne se dissiperont pas aussi facilement.
Donc est-ce qu'il y a un danger réel ou est-ce qu'il y a une hystérie collective?
Non, moi je pense qu'il y a un danger réel et qui est à peu près le même que celui qui nous guette d'ailleurs en Europe.
C'est, mais sauf que nous,
on a
le parapluie allemand.
C'est quand même un danger de taux d'intérêt quand même structurellement un peu plus élevé. Et donc, moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose qui n'est pas anodin.
Léa? Oui, c'est une problématique de temporalité, ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, les mesures que Trump est en train de mettre en place sont des mesures dont il espère effectivement des rendements, en fait, et qui ne viendront pas dans les prochains mois. Et je crois qu'un peu basiquement, parce que ça donne du flou hein, quand même, toute cette approche. On a parlé de la dette et finalement, pourquoi toute la partie de guerre commerciale, on n'en parle plus. Si, on en parle, hein, parce que le verre s'est beaucoup vidé, mais le verre est quand même plus rempli que précédemment.
On n'en parle plus beaucoup.
Ben oui, mais sauf les entreprises.
Quand on négocie, qu'il y a rien de nouveau, on n'en parle jamais.
Il y a deux semaines, on négociait, c'était l'hystérie.
Je pense qu'on a zappé d'un sujet à l'autre. Le seul indicateur qu'il va falloir regarder de près maintenant, puisqu'on ne sait plus très bien ce qu'il va falloir regarder, c'est le taux de chômage. Aux États-Unis, c'est l'indicateur clé pour comprendre les marchés actions.
J'ai juste deux éléments. Si vous voulez, la réserve fédérale américaine, faut pas oublier qu'elle continue d'intervenir. Alors effectivement, on a les taux qui augmentent, mais pas tant que cela, parce que sur les dernières semaines, la Fed est intervenue en catimini, 50 milliards de rachats de bons du Trésor.
C'est beaucoup?
C'est pas tant que cela, hein. C'est pas énorme, donc ça veut dire aussi qu'il n'y avait pas une nécessité d'intervenir très massivement. Et le deuxième point, c'est que il y a beaucoup de rumeurs sur les marchés, notamment une des grosses rumeurs, c'est de dire finalement la Chine, très très massivement sur les dernières semaines, elle s'est délestée de bons du Trésor. Écoutez, une date à retenir, le 30 mai, on aura l'évolution des actifs de titres, notamment bons du Trésor détenus par la Banque Centrale Chinoise. On verra si effectivement en mars, en avril, ça va
évoluer. Et rappelons quand même ce chiffre, c'est que la Chine a à peine 2% de la dette américaine, contrairement à tous les fantasmes, et que la Grande-Bretagne est passée devant la Chine en termes de détention de la dette. Donc ce fantasme que les Chinois se serviraient de ça pour... Donc vous dites à gauche, là, à ma gauche, là, danger.
Ouais.
Danger parce que dollar, parce que c'est pas simplement...
C'est évolution. Et puis c'est pas les mêmes marchés financiers, c'est pas la même économie avec des 10 ans américains à 4,5-5. 4,5, c'est pas les mêmes politiques de taux d'intérêt, c'est pas la même baisse de taux prévue, c'est tout ce sujet-là, ce scénario qui tiendra pas. Sur le chômage, la politique anti-immigration qui là est forte va faire que même si ça va moins bien, le taux de chômage va pas forcément augmenter autant que ça parce qu'il y a un problème potentiellement de main-d'œuvre hein, vu les pourcentages là-bas. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre la politique anti-immigration en même temps que ça. Donc, et puis sur les entreprises, par rapport aux droits de douane, moi j'ai fait une conférence la semaine dernière où j'ai rencontré pas mal de patrons et de patronnes. Le seul sujet, c'est les droits de douane.
Je suis d'accord, je parlais pas des entreprises, je parlais de l'hystérie.
C'est pas dans les chiffres, hein, ça n'arrivera dans les chiffres que dans les mois qui viennent, après l'été. Hein.